Bonjour Claude Escolovitch.
Bonjour.
Claude, ce matin, on parle de photos.
Des photos de voleurs prises en pleine action par une caméra de surveillance et qu'un supermarché du Tarn-et-Garonne a affiché dans son hall d'entrée avec la mention « voleur du mois ». Hier, des gendarmes ont fait enlever le panneau des voleurs de l'Intermarché de Verdun-sur-Garonne, mais l'affaire fait la une de la dépêche qu'il avait révélée dès mercredi sur son site et maintenant nous fait réfléchir. On apprend que cette manière d'afficher les méchants vient des États-Unis où elle est politique, mais en France, elle est passée au monde du commerce. On lit un reportage sur l'Intermarché où l'on entend Colette qui a du cœur et qui se dit que peut-être les voleurs avaient faim. Mais on entend aussi Gilles qui a été pompiste et a subi les vols, alors afficher les bandits, il comprend. D'ailleurs, disent les gérants de l'Intermarché, ces voleurs ne prenaient pas de nourriture, mais de l'alcool, des lames de rasoir. Ce ne sont pas des affamés, mais des réseaux mafieux géorgiens. En revanche, eux, les gérants, organisent des collectes de victuailles pour les pauvres. Et subtilement, le lecteur doit passer du côté du commerce floué. Le vol chez les distributeurs coûte plus de 7 milliards par an, 148 euros par ménage, et l'éditorial de la Dépêche, qui commence sur un mode humaniste outrancier, comparant les voleurs affichés aux résistants de l'affiche rouge, change de ton à mi-chemin, car c'est l'ensemble des clients qui subit les pertes causées par les voleurs, qui volent un œuf, volent tout le monde. Mais plutôt qu'afficher les bandits, il vaut mieux donner leurs photos à la gendarmerie. Pendant ce temps, la montagne nous dit que Clermont-Ferrand est ravagé par les pickpockets. Comme pendant ce temps, la Provence, qui titre le grand n'importe quoi, constate que dans le métro marseillais, la fraude règne impunie. 120 portiques contournés, effacés, humiliés en une journée et pas un contrôleur. Mais que fait la régie des transports? Eh bien, la régie des transports a embauché pour sa sécurité un ancien du GUPN. Elle perd des millions, plus d'un quart des trajets ne sont pas payés. Sans la fraude, elle aurait pu acheter l'an dernier une rame de métro, 5 de tramway, 120 bus. Et ainsi, en trois grands journaux, vous entendez le besoin de décence qui parcourt une société flouée.
On parle aussi d'une révolution.
Conceptuelle, la révolution, puisque fruit des neurones du journaliste libéral provocateur Éric Le Boucher, qui dans Les Échos explique que les entreprises doivent se libérer du diktat de leurs actionnaires pour prendre à cœur, comme elle l'affirme, leur responsabilité sociale et environnementale. Elles doivent être garantes de la planète, garantes du bien-être des salariés, elles doivent conjurer la rage sociale. Et dans une campagne électorale qu'il juge sévèrement, Le Boucher affirme que la gauche étant morte, les entreprises doivent la remplacer. Cherchons la part de l'intuition, de la nostalgie du paternalisme ou du 1er avril, qui sait. Vous lirez dans La Croix, qui accompagne les croyants dans le carême, qu'il faut donner mais sans se perdre, car si le don est au fondement de la foi, il peut aussi induire la toute-puissance. Dans Sud-Ouest, lisez des basques militants qui donnent sans se griser. Ils repèrent à la gare routière de Saint-Jean-de-Luz les mômes un peu perdus avec leur sac quechua. Ils reconnaissent le gamin exilé auquel ils offrent la chocolatine et puis le gîte, l'accueil, la France. Ils n'aiment pas ces militants qu'on parle de migrants, un mot qui globalise, qui racise. Eux connaissent des jeunes un par un. Ibrahima qui s'accrochait à son ballon de foot comme à une bouée. Mustapha qui parle peul et wolof et qui sourit tout le temps.
Et on parle enfin d'objets.
Et M, le magazine du Monde, est brillant ce matin, qui nous ramène Philippe Starck, qui incarna le design, une manière d'être au monde, flamboyante, bavarde, géniale, omniprésente, il y a une génération, quand son presse-agrume démarrait les conversations. Le temps a fait oublier les années 80, mais le revoilà Starck, inchangé, faussement effacé, toujours central, ses objets sont des invites à la mémoire. M raconte aussi, dans Paris, les traces violettes orange stylisées, des utopies urbaines optimistes des années 60-70. Avec culture et maîtrise, dans Le Figaro, Éric Bietri-Rivière nous invite à Giovanni Boldini, qu'on expose à Paris, un peintre qui littéralement incarna la belle époque, inventa la parisienne des années 1900. On disait en son temps que ses modèles avaient des torsions de truites au bleu au sortir de l'eau bouillante. Pour mériter leur taille de guêpe, elles s'obligeaient à maigrir avant de rencontrer le maestro. Vous lirez dans Bastille, chouette magazine culturel, comment Jean-Michel Basquiat, peintre génial que le sida emporta, avait posé pour un photographe. Il était magnifique, il était beau, parfois il posait nu. Dans Le Monde encore, j'en termine, austre nostalgie, apprenez qu'en Russie sous Poutine est revenu le culte de la blague noire, amère, mordante, qui sous l'Union soviétique permettait au peuple de se venger. Un coiffeur parle de l'Ukraine à Poutine parce que c'est plus facile de vous coiffer quand vos cheveux se dressent sur la tête. On faisait la même il y a 54 ans sur Brejnev et la Tchécoslovaquie.
Merci Claude Escolovitch pour cette revue de presse. France Inter.